L'accordeur, on passe assez naturellement au théologien.
Bien, après ce brillant exposé de Bernard, on m'a demandé de parler de théologie, parce que Xavier est un vieil ami, et ma réflexion, elle vient de cette relation d'amitié entre le chrétien qu'il était et le juif que je suis. Alors parler de théologie, ce n'est pas un sujet simple. Et suis-je compétent pour le faire, du reste? Sans compter que la théologie est très liée à la religion et au dogme, et qu'elle a donc quelque chose d'officiel et de conventionnel. Cependant, en pensant à Xavier, il est certain que l'idée de Dieu et de la croyance est d'emblée présente. Et elle a donné lieu à bien des discussions entre nous. Et d'ailleurs, toute la théorie du sens dont on a parlé n'est-elle pas, finalement, quelque chose qui est une recherche du divin, et non pas une théologie, ce qui est différent? Alors, c'est vrai qu'entre un chrétien et un juif, il y a un univers commun. Mais il y a aussi une séparation. Mais c'est la séparation qui permet justement le partage, même si cela ne se fait pas toujours sans heurts et sans difficultés. De façon anecdotique, j'aime me rappeler un certain nombre de souvenirs qui me rattachent à Xavier et à Bénin. Je me souviens de notre première rencontre qui a eu lieu en 1975, lors de vacances de Noël. Je me souviens de la première montée à pied à Bénin avec Catherine. Nous étions suivis ou précédés, selon le moment, par un berger des Pyrénées qui semblait être venu nous accueillir à la gare de la tour de Carole. Plus haut sur le chemin, je découvrais, ébahi, des écriteaux rustiques avec des caractères qui ressemblaient à de l'hébreu. Je déchiffrais Fanès, Brangoli, Béna. Plus tard, Xavier me dira que c'était du proto-hébreu et qu'il s'intéressait à la linguistique générative, c'est-à-dire en fait les hiéroglyphes qui se transforment, qui sont devenus des pictogrammes, pour donner ensuite l'alphabet. Il me dira aussi que les 22 lettres de l'hébreu lui servaient à codifier les 22 acides aminés. Je découvrais une personnalité étrange, pétrie de christianisme, connaissant la Torah, l'Ancien Testament, qui admirait les belles images bibliques, Abraham disant à Dieu « Me voici, Inani », la visite des trois anges, le buisson ardent avec Moïse. D'une certaine façon, je découvrais dans ce Béna, au nom si hébreu comme il aimait à le dire, parce que la racine « bet »,« nun he » ou « alef » selon, signifie « bâtir »,« enfanter », mais aussi « intelligence » avec « bina ». Je découvrais donc un personnage qui me paraissait étonnamment biblique, mais aussi ancré dans la modernité, car j'allais découvrir aussi, bien sûr, sa culture scientifique. Mais là aussi, c'est la science comme instrument visant le divin, comme instrument d'exploration de la cosmogénèse et de rapprochement de Dieu. Xavier m'avait dit un jour qu'il n'acceptait pas l'infirmité de l'homme dans son existence d'humain. Il était obsédé par la découverte de la clé de l'univers, du sens, comme il disait. Cela me paraissait être d'un manque incroyable d'humilité et d'une audace absolument prétentieuse, mais en même temps, je me disais qu'indéniablement, c'était aussi un hymne adressé au Créateur. Après tout, la Bible le dit, Dieu a fait l'homme à son image, et en conséquence, pourquoi l'homme ne serait-il pas co-acteur ou co-générateur avec Dieu de la cosmogénèse? C'est ce que disait Xavier. L'œuvre de la création est faite par Dieu et l'homme est co-générateur dans le cycle d'alpha vers oméga. Cela résonnait en moi de façon assez claire et me rappelait la cabale juive, qui est aussi une vision cosmologique mais surtout éthique. Dans la cabale, l'homme est récepteur du divin et il est appelé sur terre à réparer le monde. C'est la réparation qu'on appelle tikkun pour faire parvenir l'humanité vers l'eschatologie finale. Xavier a la même vision quand il parle de l'enfantement douloureux. Rappelons-nous, encore une fois, que la racine Béna signifie enfanter. Quand il parle de la gestation du monde nécessairement douloureuse qui doit accoucher de son destin messianique. Cette vision de la cosmologie et de son décodage par l'homme m'avait paru à un moment représenté de façon plus que symbolique par la TNN, la théorie de la numération naturelle que Xavier avait développée. C'est une arithmétique boguée, originelle, qui se déboguait en trois étapes concomitant des acquisitions successives des variables fondamentales temps, espace et force, correspondant à l'accordage dont vient de parler Bernard, accordage progressif de l'univers, et correspondant à une donation d'amour supplémentaire. Je me souviens que devant mon enthousiasme naïf, Xavier avait même pensé, à l'occasion d'une rencontre à Paris en présence d'Anne, son épouse, pas très loin du cercle des officiers de Saint-Augustin, à me demander de prendre en main la réalisation d'un programme informatique de modélisation de la TNN. J'étais bien sûr très flatté, ô combien, mais complètement désemparé, parce que comment réaliser un tel programme? Mais après tout, qui sait? Ça viendra peut-être un jour. Alors, nous avons bien sûr évoqué Israël et le conflit israélo-arabe. Xavier avait fait un voyage en Israël en 75 ou 66. Il avait rendu visite à mon frère Yona dans son moshav au Negev. Il avait rencontré André Chouraki à Jérusalem et je lui avais donné quelques cours d'hébreu avant son voyage. Nous avons souvent évoqué ce voyage et reparlé de la guerre et de la paix nécessaire. J'avais dit à Xavier que la paix se ferait quand les trois religions monothéistes s'accorderaient sur ce qu'elles ont de commun et dépasseraient ce qui les sépare. Il en convenait pleinement et me disait que c'était la teneur même de ses échanges avec Chouraki à Jérusalem. Il y a peu de temps, enfin il y a deux ans, un peu plus de deux ans, Xavier de passage à Paris m'avait invité à le rejoindre avenue de Suffren. Un accident de santé de mon fils m'en avait empêché au dernier moment. J'ai manqué malheureusement l'occasion de le revoir une dernière fois, mais nous allons échanger par mail et Xavier m'avait demandé de lui écrire ce qu'évoquait pour moi Pâques. Je repensais bien sûr à son ouvrage sur la stratégie pascale dont nous avions parlé quelques années auparavant. Alors je lui ai écrit en évoquant ce que l'expérience de l'exil représente dans les fêtes de Pâques juives, la Pessah. Exil raconté le soir du Seder, dans le récit de la sortie d'Égypte, afin de prendre conscience de la délivrance de l'esclavage comme aventure initiatique d'un peuple. Mais emblématique, donc expérience initiative d'un peuple, mais emblématique du sentiment d'exil propre à tout humain, et de sa nostalgie de délivrance. Nostalgie de l'homme pour un pays qu'il n'a jamais connu, comme dirait Lévinas. Nous sommes tous finalement des exilés et tous des nostalgiques. Xavier partageait cette vision d'un effort renouvelé pour sortir de l'enfermement, pour aller vers plus de bonté, plus d'accord, pour aller vers l'autre dans toute son étrangeté. Et je vous cite ce qu'il m'écrivait, c'était le 2 novembre 2011. Je me sens beaucoup plus proche de toi et de ton analyse que tu ne le penses. Je reste convaincu avec saint Paul que le salut vient des Juifs. Ensuite, je crois comme toi à l'absolu de l'autorité du Créateur, créant à partir du néant. Il est l'auteur d'une matrice transcendante de la création. Je le dis clairement, quand je fais correspondre à l'avènement du monothéisme, la sphère de l'éthique, éthosphère, dont la loi divine est le référent. J'insiste beaucoup sur ce que l'homme n'est pas co-créateur, mais je distingue la création de la Pessah, de la Pâque.
Je vais peut-être faire.
Je te cite.
À cause de l'hébreu, je vais faire le.
Qui, je te cite,
et puis ensuite,
est une histoire sans fin. Pour moi, Pessah est le passage d'une aliénation à une désaliénation, comme le passage de l'Égypte en terre promise. Ce passage est donc engendrement d'une liberté supérieure, comme celle du bébé, passant de la matrice maternelle à la matrice sociale. Cet accouchement est génération et non création, production d'un nouvel état à partir d'un ancien état et non pas à partir de rien. Si l'homme n'est pas co-créateur, il est co-générateur chaque fois qu'il fait la vérité sur la loi. Je voudrais terminer en exprimant justement toute la nostalgie que nous laisse un être cher rappelé par Dieu à sa mort, mais dire aussi la conviction que la mort n'est pas une fin, car il y a toute l'altérité ouverte sur le mystère de Dieu, le tiers intervenant, comme disait Xavier. ce que les Juifs rappellent en inscrivant sur les tombes les lettres Tenatseva, Tafnun Tsade Bethe, et avec la permission, avec votre permission, je veux dire l'expression correspondant à ces lettres, la traduction donc à la mémoire de Xavier, que son âme soit reliée au faisceau de la vie.